France Culture.
Réplique, vivons-nous la fin de la Ve République avec Benjamin Morel et Dominique Régnier. Dissolution du 9 juin 2024, la France semble paralysée. Les élections législatives n'ont dégagé aucune majorité viable. Les premiers ministres qui se succèdent font d'immenses efforts pour trouver des compromis et doivent constater leur impuissance. De cet accablant surplace, l'ex-locataire de l'hôtel Matignon, Bernard Cazeneuve, a tiré la conclusion suivante. Sur le plan politique, nous sommes revenus aux mœurs de la Quatrième République. L'instabilité, la combinaison entre les appareils et les petits arrangements pour soi-même pollue tout. À mes deux invités, Benjamin Morel, qui est maître de conférences en droit public, à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, et Dominique Régnier, qui est professeur à Sciences Po et qui dirige la Fondapol, je voudrais d'abord demander s'il partage ce diagnostic. Benjamin Morel.
Je trouve la remarque assez méchante pour la 4e République. En réalité, sous la 4e République, vous avez un personnel politique de très très haute volée. Ensuite, vous avez en effet des jeux d'appareil, tout bêtement, parce que personne n'a la majorité. Et on dit beaucoup, pour reprendre ce que dit Bernard Cazeneuve, on dit beaucoup, après les gaullistes, que la 4e République, c'est la dictature des partis. En fait, pas du tout. Les partis sont très faibles sous la 4e République. Quand la SFIO, et qui pourtant est un vrai parti politique, je vous parle même pas des petits groupes très divisés qui, à l'époque, peuplent le centre, eh bien, quand la SFIO n'est pas d'accord avec ses parlementaires, elle n'a pas les moyens de les sanctionner. Ce qui fait que les votes SFIO sont des votes qui sont extrêmement diversifiés. Aujourd'hui, on souffre plutôt de deux mâles qui, en fait, ont marqué, en effet, la fin de la 4e République. D'un côté, une hyperpolarisation. Prenez l'hémicycle de 1956. En 1956, qu'est-ce qui fait tomber au fond la 4e ? Bah, si vous prenez l'hémicycle élu en 1956, vous avez 25% de communistes. On ne peut pas s'allier avec eux, on est en pleine guerre froide. Vous avez 8,5% de poujadistes. On ne peut pas s'allier avec eux parce que ils sont poujadistes. Et vous avez 4,5% de gaullistes. On ne peut pas s'allier avec eux parce que De Gaulle ne veut pas. Et aujourd'hui, si vous prenez notre hémicycle actuel, vous avez 25% de RN, 12,5% de la FI. Même configuration. À chaque fois, vous tombez sur 37,5% de votre hémicycle qui est gelé à toute configuration d'alliance. Et donc, vous faites des alliances de briques et de broc au centre, entre des formations politiques très faibles. Au fond, que fait De Gaulle ? Il structure un grand parti de droite. De Gaulle, qui n'aime pas les partis, est le premier à avoir fondé un parti de masse à droite et avoir structuré de manière partisane la droite de façon très forte. Et donc, la Ve République, paradoxalement, au-delà des lieux communs qu'on peut développer dessus, c'est un régime avec des partis forts, des partis hégémoniques, et de l'autre côté, des partis qui ont la capacité d'avoir un espace politique qui englobe les pôles. Aujourd'hui, et en effet le parallèle est bon avec la 4e République, on a des partis faibles, des gouvernements de briques et de broc au centre, et donc ça forcément, ça crée de l'instabilité, et en effet, quand on prend notre hémicycle et notre vie politique actuelle, elle rappelle beaucoup la période 56-58.
Dominique Régnier.
On pourrait d'ailleurs ajouter en forme de demi-ironie que c'est aussi le retour de la question algérienne.
Avec cette résolution dénonçant les accords de 68.
C'est quand même étonnant.
Portée par la fille
oui. Du plus jeune député des poujadistes, Jean-Marie Le Pen. Donc oui. On a comme ça des arcs de temps qui réunissent ces deux mondes. Malgré tout, très différent à mon avis. Alors je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Benjamin Morel sur la polarisation du retour. Ça, c'est très intéressant et étonnant. Mais malgré tout, la société française de la 4e République est en pleine renaissance. Démographiquement jeune, la croissance est très forte, 5-6%. En un sens, on comprend à ce moment-là que tout va aller beaucoup mieux. Et au fond, on se fiche pas mal qu'il y ait la valse des ministres ou des ministères. La croissance est forte, le progrès social est au rendez-vous, et chaque année qui passe est une année mieux vécue que la précédente, à tout point de vue. Hein. Donc c'est un contexte qui n'est pas du tout celui qui pourrait générer un sentiment de déclin ou de menace existentielle, contrairement à aujourd'hui. Donc nous, aujourd'hui, on a un dysfonctionnement complet du régime qui se présentait lui-même, et je ne dis pas à tort, mais enfin qui était dans l'esprit des Français, celui qui ne peut pas être ébranlé, le régime de l'autorité démocratique, en combinant donc ces deux dimensions, et ce à quoi assistent les Français depuis le 9 juin 2024 que vous rappeliez, Alain Finkielkraut, c'est que ça ne marche plus du tout. Et peut-être les Français ont-ils le sentiment qu'il n'y a pas de solution.
Oui, mais entre 1956 et 1958, en dépit de l'optimisme général des Trente Glorieuses, ça ne marchait plus du tout. Et c'est pour ça que René Coty a fini par faire appel au général de Gaulle. Oui. Donc la question algérienne a perdu la Quatrième République, et quelquefois on peut se demander, comme l'a fait Marcel Gauchet, si la question de l'immigration ne va pas perdre la fin de la cinquième, Dominique Rignon.
Ça, c'est une dimension qu'on pourrait effectivement ajouter. C'est un aspect des problèmes considérables que la cinquième n'a pas du tout su traiter et qu'elle payera sans doute très cher. À quoi il faudrait ajouter la question du surendettement, qui pèse au moins autant hein, dans l'ensemble de ces grands sujets que nos gouvernants, depuis 50 ans, ben, je considère, pour ma part, n'ont pas su traiter du tout, et qui, au fil du temps, sont devenus, en un sens, ingouvernables aujourd'hui.
Mais alors, revenons donc à cette dissolution. Que pensez-vous de cette décision d'Emmanuel Macron? Elle est très critiquée. Et quel résultat a-t-elle donné? Benjamin Morel.
Alors, je dirais que c'est ambigu, parce que la réalité, c'est que la Ve République a été pensée, construite, faite pour gérer des situations de majorité relative. On dit beaucoup, la Ve République, c'est les majorités absolues. Non. Pour De Gaulle comme pour Debré, il n'y avait jamais eu une majorité absolue dans ce pays. Et donc, quand ils conçoivent la Constitution, l'idée même d'une majorité absolue leur échappe. La Ve, elle est faite pour gérer des majorités relatives. Elle est faite pour gérer la période 2022-2024. Vous avez 40, 50 députés qu'il vous manque, la Constitution, 49 alinéa 3, etc., a été pensée pour gérer ça, et donc cette situation était complètement gérable. On aurait eu un gouvernement qui aurait peut-être tombé à l'automne, c'était pas certain d'ailleurs, la belle affaire. On aurait réussi ensuite à en brancher sur quelque chose d'autre. Ce qu'on ne sait pas faire en revanche, c'est gouverner avec 120, 150 députés derrière un gouvernement. Là, aucune constitution ne permet de pallier ça. La constitution de la 3e, de la 4e, de l'Allemagne comme du Népal, ne permet pas de gouverner ça. Et la 5e République en la matière, enfin la dissolution en la matière, a conduit en réalité à créer une instabilité qui n'existait pas encore. Après, et pour finir là-dessus, parce qu'évidemment, bah, la crise n'est pas que celle de la dissolution, elle a également été un révélateur. C'est-à-dire que la tripolarisation de la vie politique, on y reviendra sans doute, aujourd'hui, frappe l'ensemble du monde occidental, l'Allemagne comme la Grande-Bretagne. Et donc dans ce cadre-là, ben, la dissolution a accéléré quelque chose qui historiquement s'installait.
Oui, c'est vrai, vous avez raison, Benjamin Morel, ça a été un révélateur, mais le révélateur d'une fragmentation terrible, parce qu'il y a plutôt quatre forces maintenant, me semble-t-il. Il y a la gauche radicale, il y a la gauche qu'on dit de gouvernement, il y a le centre, il y a la droite et il y a le Rassemblement national. Et ces quatre forces, on a du mal à imaginer comment on peut sortir de leurs oppositions réciproques. Donc la décision a été malvenue, c'est clair, mais d'un autre côté, elle nous dit quelque chose du paysage politique français, Dominique Régnier.
Mais quand même, la décision irrationnelle hein, est une cause forte de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Hein. Elle est irrationnelle, on ne pouvait pas l'anticiper. Ça peut être très rationnel et pas anticipé, mais là, vraiment, personne n'anticipait parce qu'il n'y avait aucune raison de dissoudre à ce moment-là. De dissoudre peut-être, mais pas à ce moment-là. Et je rappelle, tout le monde le sait, que la dissolution a eu lieu le jour, le 9 juin, où le président constate qu'il a perdu un scrutin.
Oui, c'est vrai.
On ne dissout pas pour dire « vous recommencez, je n'ai pas aimé ce que vous avez dit ». Sinon, on le savait dès le soir même, quand il a prononcé la dissolution, si vous dites aux Français, je n'aime pas ce que vous avez dit, je vous demande de recommencer votre exposé, aussitôt, c'est la même expression affirmée. Et donc, c'est cette idée aussi que on ne peut pas accepter de la part des électeurs une certaine préférence électorale. On peut aller aux élections, on vote pour qui on veut, les partis sont autorisés, mais il y a des limites non écrites qui se sont manifestées le 9 juin. Et donc, la constitution, entre guillemets, informelle, elle est où ? C'est quoi ?
Est-ce que vous pensez que c'est simplement un geste de déception, de mauvaise humeur d'un président ? Ou est-ce qu'il y avait des intentions politiques ? Certains disent qu'en fait, Emmanuel Macron souhaitait une victoire claire du Rassemblement national pour que Jordan Bardella soit Premier ministre et qu'ainsi, il épuise ses cartouches avant 2027, qui éviterait à Emmanuel Macron l'humiliation de recevoir Marine Le Pen à l'Élysée. Que penser de cette hypothèse, Benjamin Morel ?
Je pense que c'est peut-être quelque chose qui est arrivé dans un second temps, quand Emmanuel Macron a compris qu'il n'aurait, quoi qu'il arrive, pas de majorité. Mais je rejoins Dominique Régnier sur l'irrationalité, mais vous savez, il n'y a rien de plus irrationnel qu'une décision qui se veut rationnelle sur des mauvais postulats. L'idée, elle était à mon avis à peu près claire, la gauche ne s'unira jamais. Il ne faut pas avoir rencontré une fois dans sa vie un secrétaire départemental du Parti Socialiste pour penser que si le RN arrive au pouvoir, la gauche ne fera pas l'unité, quelles que soient ses divisions. Et deuxième idée, eh bien, au fond, là, il y aura un vrai enjeu par rapport aux élections européennes. Et donc, les Français voteront en raison, sous-entendu, ils voteront pour nous, les macronistes, parce que nous avons la raison. Et ça, c'est, je dirais, une réflexion très post-politique. C'est-à-dire que vous discutez avec quelqu'un qui a vraiment fait de la politique pendant des années, qui a été militant, jamais il ne tiendrait ce type de réflexion. Et au fond, c'est très marquant du mandat d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui fait des coups politiques, qui, comme dans une série télévisée, eh bien, fait des coups politiques, pense le coup politique, mais ne pense pas en politique. Et là, en la matière, bah, quand vous ne pensez pas en politique, quand vous n'avez pas les soubassements politiques, vous faites des erreurs de base, des erreurs qui, fondamentalement, flirtent avec l'irrationalité et produisent ensuite, si ce n'est des horreurs, en tout cas des moments très gênants.
Le moment est très gênant pour lui et pour tout le monde, mais y a-t-il un moyen de sortir de la fragmentation du paysage politique et de retourner à une certaine bipolarisation ou à une tripolarisation gérable ? Dominique Régnier.
La cinquième de 58 peut-être le permettait, la cinquième de 1962, c'est-à-dire l'élection du chef de l'État au suffrage universel, ne le permet pas. C'est fini. Nous avons, à partir du moment où le chef de l'État est élu au suffrage universel, une élection qui va venir défaire tous les projets de coopération, de rapprochement, de compromis, de discussion, au fur et à mesure que l'on va se rapprocher du scrutin. Je pense même que c'est une loi, je pense, c'est la politique de la situation. Aujourd'hui, la perspective proche maintenant de la présidentielle, elle est très proche de la présidentielle. La campagne tournera à plein régime dans moins d'un an. Donc c'est vraiment maintenant, et comme il y a les municipales un peu avant, on rentre dans un cycle électoral qui ne finira pas avant avril, mai 2027, juin même, si on ajoute les législatives, aucun acteur politique n'est incité aujourd'hui à coopérer avec les autres. Il y aura peut-être des rapprochements qui se feront, mais on n'est pas dans la phase des rapprochements, dans la phase de la saillance. Il faut que chacun se distingue de l'autre, parti ou candidat, et donc toute coopération est un risque de contamination, en quelque sorte, avec le macronisme, avec les LFistes, avec le RN. Et donc, à la fois, il faudra évidemment qu'il y ait des rapprochements, il y en aura de toute façon, les électeurs le feront, par force, mais pour les acteurs, le décider aujourd'hui, c'est prendre un risque qu'ils vont juger important dans un contexte sans précédent, à la Figuel-Crotte, c'est-à-dire que personne n'est en mesure de dire « je sais ce qui va se passer à peu près ». Personne en France. Mmh. C'est ça d'ailleurs qui angoisse beaucoup nos compatriotes. Personne. Pas le chef de l'État, bien sûr. Il n'y a pas un chef de parti, il n'y a pas quelqu'un qui sait à peu près où nous allons, parce que cette situation-là, nous ne l'avons jamais vécue. Donc c'est le grand brouillard au bord du vide. Et l'idée de coopérer avec des forces mal connues, inconnues, mal enracinées, parce que tous les partis d'aujourd'hui, il y en a des partis, ce ne sont pas de vrais partis non plus aujourd'hui. Hein. Ils sont ultra-minoritaires, ils n'ont pas d'élus locaux. Regardez, LFI, le RN, les macronistes, ils n'ont pas d'élus locaux. Ce n'est pas des partis. Et les partis qui ont des élus locaux, c'est le PS et LR, ils sont faibles à l'Assemblée nationale. Il n'y a plus grand-chose aujourd'hui. Donc la capacité à maîtriser le temps qui vient d'ici la présidentielle, va amener les candidats, et j'arrête là-dessus, va amener les candidats et les chefs, les candidats déclarés ou pas et les partis, soit à privilégier leur propre visibilité, et donc à être plutôt dans la compétition, soit à se rétracter par prudence, une prudence peut-être excessive, pour ne pas prendre des coups parce qu'ils ne savent pas d'où ils viennent.
L'élection présidentielle empêche toute alliance, vous l'avez dit Dominique Reynier, donc faut-il revenir sur l'élection présidentielle, sur l'élection du président de la République au suffrage universel? Était-ce finalement une mauvaise décision? Et faut-il trouver un autre système institutionnel ou bien est-il trop tard?
Alors, Benjamin Morel. Je rejoins en grande partie Dominique Reynier, je serais peut-être moins pessimiste à long terme en revanche. C'est-à-dire que l'élection présidentielle, en effet, aujourd'hui, est quelque chose qui nous bloque. Parce que vous n'avez pas intérêt à faire des alliances. Il y a un autre élément également différent de la plupart des pays étrangers, c'est le mode de scrutin qui ne pousse pas non plus forcément à des alliances. Tout ça crée un effet qui est un effet de fixation et, je dirais, d'opposition entre les formations politiques. Toutefois, la tripolarisation, elle n'est pas franco-française. Hein. Aujourd'hui, si vous regardez l'Allemagne, l'AFD est devant la CDU-CSU et le total Die Linke plus le parti en scission de Madame Wagenknecht est au-dessus du SPD. En Grande-Bretagne, le temple du bipartisme, le premier parti
Farage,
et de l'autre côté, vous avez également une montée des écolos. Donc on voit qu'on a aujourd'hui une tripolarisation profonde qui est dans l'électorat. Une enquête que j'aime beaucoup citer, ne serait-ce que parce que j'en ai retenu les chiffres, une enquête Odoxa lors de la dernière élection législative, disait que 47% des Français voulaient voter contre le nouveau Front populaire. 44% contre Emmanuel Macron, 41% contre le RN. Quand aujourd'hui vous avez des enquêtes d'opinion qui disent les Français veulent l'union, veulent l'alliance, mais en fait, oui, mais pas avec les gens avec qui ils sont en désaccord. Et que font les partis? Ils suivent leurs électeurs. C'est une question de survie pour eux. Et donc dans ce cadre-là, on a un problème structurel de l'ensemble de l'Europe occidentale. Les élections présidentielles l'aggravent encore chez nous. Toutefois, si vous regardez aujourd'hui les pays européens, il y a d'autres pays qui élisent des présidents de la République. Je pense notamment à l'Autriche, je pense au Portugal, je pense à la Finlande. On va dire, oui, mais ces pays, le président a moins de pouvoir. Non, le président de la République, en fait, il a assez peu de pouvoir en France.
Ah, vous dites ça, vous. C'est pas Jupiter?
Regardez en droit, je parle en droit. Qui détient le pouvoir réglementaire sous la Troisième République? Le président de la République, sous la Cinquième, c'est le Premier ministre. Le domaine réservé, ça n'existe pas en droit. C'est une invention de Jacques Chaban-Delmas au congrès de l'UNR en 1959. Qui dispose des forces armées sous la Troisième République? Le président de la République, sous la Cinquième, c'est le Premier ministre. Le pouvoir du président de la République, vous n'avez pas vécu dans une faille temporelle ces dernières années en disant le président de la République a tous les pouvoirs. Mais le fond du pouvoir du président de la République, c'est pas le droit, c'est qu'il dispose d'une majorité. Et là, on est en train de découvrir quelque chose qui est un fait juridique. Quand le président n'a pas de majorité, il a en fait très très peu de pouvoir. Et donc, si jamais, comme les Portugais, comme les Autrichiens, comme les Finlandais, on se déshabitue du pouvoir présidentiel, la tête de l'élection change fondamentalement. Parce que si vous prenez le personnel politique du début de la Ve République, pour le personnel politique de la IVe République, l'élection présidentielle, il y a un moment de Gaulle, mais après n'aura plus aucun sens. Tout bêtement, parce que on retrouvera un président à la René Coty. C'est le ressort de l'élection de 65. La gauche ne veut pas vraiment y participer. On cherche quelqu'un qui apparaît comme devant, quoi qu'il arrive, perdre face à De Gaulle. On envoie François Mitterrand, qui lui a compris qu'on a changé de période politique. Là, aujourd'hui, si vous avez fait de la politique depuis que vous êtes petit, vous voulez devenir président de la République, parce que vous voulez devenir Bonaparte. Mais demain, si les présidents de la République n'ont plus structurellement de majorité, c'est le rapport même à l'élection qui devra évoluer.
Vous faites le même diagnostic, Dominique Reynier ?
C'est très intéressant, j'écoute avec beaucoup d'intérêt Benjamin Morel. J'ai une vision très pessimiste en raison de l'élection présidentielle qui ne pose pas qu'un problème de système non coopératif, mais qui est une élection qui, dans son essence, par les temps difficiles dans lesquels nous sommes, est une élection, je considère, structurellement populiste.
Vous dites qu'elle est populiste ?
Elle est par nature populiste. D'ailleurs,
Alors, consulter le peuple, c'est populiste ? Vous diriez ça, dans les référendums, ce serait populiste aussi?
Dans un tel contexte, Alain Finkielkraut,
oui,
vous verrez qu'il n'est pas possible d'être élu président de la République en proposant de partir plus tard à la retraite et de faire des économies très significatives sur les 900 milliards de dépenses sociales. On va le voir d'ailleurs au débat à l'Assemblée sur la partie dépenses sociales. Aucun parti ne se risquera à proposer la réduction des dépenses publiques. Donc l'élection présidentielle, j'aimerais beaucoup que la société française rentre dans une profonde réflexion sur ce problème-là. Je n'y compte guère, mais je l'aimerais beaucoup. Parce que c'est l'élection qui va tuer non seulement ce régime, mais peut-être aussi l'État. Une crise de régime, c'est grave. Une crise de l'État, c'est plus grave encore. C'est pas coopératif, on l'a dit, c'est évident. Mais ça n'est pas non plus un contexte dans lequel nous nous mettrons d'accord sur des réformes difficiles. Ça ne marchera pas, ça n'existera pas, ça.
D'ailleurs, je lis une partie de la tribune que vous avez écrite dans le Figaro, Dominique Crenier, l'entretien, en fait.
Sur la présidentielle, c'était le site de Sciences Po.
Oui, mais il y en a dans le Figaro, je ne me trompe pas. Il n'y a pas, vous dites justement, de solution électorale à notre association, parce que les décisions auxquelles sortent les gouvernants, la classe politique et presque toute la population, concernent des problèmes cruciaux, appelant des réponses inévitablement très impopulaires, ce qui fait que gouverner est devenu seulement l'art d'éviter soigneusement les problèmes pour ne pas risquer l'impopularité. Mais là, je vais vous interroger tous les deux, parce que quand on fait des enquêtes d'opinion, récemment, les gens disent qu'ils sont désespérés par le personnel politique, par le spectacle que donne la classe politique depuis quelques mois. Ses premiers ministres, etc., ses impossibilités de trouver des accords. Oui, mais enfin, qui est responsable de la situation? Est-ce que ce sont les politiques ou est-ce que c'est pas la société, tout simplement? Est-ce que c'est pas la nation qui se refuse à un certain nombre de réformes nécessaires, mais effectivement impopulaires? Ce à quoi je pense, bien sûr, c'est la réforme des retraites. C'est la grande mesure de Macron, de son deuxième mandat. Sébastien Lecornu est contraint de la suspendre pour que son gouvernement se maintienne, pour obtenir la voix des socialistes. C'est pour ça que je peux me demander si les socialistes ont effectivement une gauche de gouvernement aujourd'hui. Et donc, ces réformes de retraite qui passent dans tous les autres pays européens, elle est impossible en France parce que elle mettrait tout le monde dans la rue et c'est pas les politiques qui sont responsables. C'est la nation tout entière.
Oui, en grande partie. C'est-à-dire que on aime dire du mal, on l'a évoqué tout à l'heure, des partis. En même temps, les Français n'ont jamais autant voté pour des étiquettes. Et de l'autre côté, les Français adorent dire du mal des politiques, mais en même temps, c'est pour eux qu'ils votent. Et d'une certaine façon, il y a en cela une déresponsabilisation. Après, si on prend le sujet particulier des retraites, revenir sur la réforme des retraites là tout de suite est de toute façon beaucoup moins coûteux que ne pas avoir de budget. Et donc, il y a un calcul qui est un calcul pragmatique. Si vous regardez un petit peu ce qu'on appelle les politiques budgétaires comparées, plus vous avez de groupes politiques qui soutiennent un gouvernement, moins vous faites d'économies, parce que tout le monde doit soigner sa clientèle, tout bêtement parce que si vous êtes membre du Parti Socialiste aujourd'hui, député socialiste, votre but un jour c'est de revenir au pouvoir et pas de laisser le leadership de la gauche à Jean-Luc Mélenchon. Et donc vous devez répondre à votre électorat. Et là on a un effet de blocage. Après, cette déresponsabilisation des Français et des politiques, elle est liée à une crise de la démocratie beaucoup plus profonde et beaucoup plus grave qu'est celle, et Dominique Crenier l'évoquait un peu en substance tout à l'heure, qu'est celle de l'impotence du politique et qui aujourd'hui structure l'ensemble des crises politiques dans l'ensemble du monde occidental. Si je pense que le politique ne peut pas agir sur le réel, qu'au fond, il n'y a pas grand-chose à faire dans un monde qui me dépasse, que vous évoquez l'immigration, l'économie, etc., le politique ne peut pas, j'ai deux actions rationnelles. Soit je m'abstiens parce que le politique ne sert à rien, et je demande qu'au moins, je puisse bien vivre et qu'on puisse défendre mes petits acquis, retraite, etc. Soit je considère qu'il faut quelqu'un qui envoie un grand coup de pied dans la fourmilière, qui fasse une tabula rasa, ça stimule le populisme, voire l'autoritarisme, dans ce qu'il peut avoir de plus trumpien. Et donc face à ça, vous avez des partis politiques encalminés qui essayent de survivre, notamment dans ce qu'on appelle l'arc centriste, on l'appelle comme on veut, mais entre l'AFI et le RN, et dans ce cadre-là, ils essayent de soigner leur clientèle électorale par stratégie de survie.
Dominique Crenier, pourquoi faire peser la responsabilité sur la classe politique elle-même? Vous dites que les réformes sont impopulaires. Il y a quelque chose dans le peuple français se refuse à des réformes, vous-même, que vous jugez indispensables et même urgentes. Comment sortir de cette situation? Et est-ce que les politiques ne sont pas les boucs émissaires de notre impuissance?
Les boucs émissaires, sûrement pas. Dans un vocabulaire d'aujourd'hui, on pourrait dire les coproducteurs avec le peuple. Mais les boucs émissaires, sûrement pas. Ceux qui ont en mémoire les années passées et quelques campagnes présidentielles précédentes se souviennent bien que il y a peu de candidats qui ont tenté de faire porter avec leur candidature un discours décrivant avec loyauté le réel, la situation telle qu'elle est, et non pas telle qu'on pouvait la rêver, et ce que nous avons fait, et nous en voyons les conséquences aujourd'hui. Alors, ce sont des candidats qui ont échoué. Hein, je pense à Raymond Barre, je pense à Édouard Balladur. Je pense aussi à des candidats qui n'ont pas vraiment pu se présenter au fond. Je pense à Michel Rocard. Je pense peut-être, pour d'autres raisons, à Dominique Strauss-Kahn. Je pense aussi à Jacques Delors. Vous voyez, il y a des figures comme ça qui ont été, pour une raison ou une autre, éliminées de ce jeu-là. Et évidemment, ils n'étaient pas faits pour ça. Ce n'est pas une élection pour eux. C'est une élection, il faut monter sur une table, raconter n'importe quoi, faire plaisir à tous vos éditoires. Je suis un peu radical, mais c'est quand même en gros ce qui se passe. Hein. Faire plaisir à tous vos éditoires différents, les auditoires différents, qui, lorsqu'ils se rencontrent, les auditoires, pour former un peuple, s'aperçoivent qu'ils sont en désaccord entre eux. Mais ça, on ne l'a pas mis en scène dans l'élection présidentielle.
C'est Rocard qui disait d'ailleurs que les qualités demandées pour être élu président de la République sont à l'apposé des qualités demandées pour diriger la France.
C'est ce qu'on dit depuis l'Antiquité, ça. C'est une loi de la politique depuis toujours. Ce ne sont pas les mêmes. Et le problème, c'est que nous aurions besoin d'un président qui n'a pas été candidat. Je ne dis pas un pape, hein, mais nous aurions besoin de quelque chose comme cela, idéalement, si vous voulez, théoriquement. Mais le plus raisonnable, je voudrais terminer là-dessus, cher Alain, le plus raisonnable, ce serait que nous ayons un collectif. Un régime parlementaire, c'est un collectif. Nous avons beaucoup plus de chances de trouver quelques petites solutions raisonnables aux grands problèmes qui se présentent à nous dans un régime qui serait parlementaire, plutôt que si nous cherchons à découvrir une personne qui va nous sauver, qui sera partie, l'homme qui va à la rencontre du peuple. Alain Finkielkraut, c'est une farce. C'est pas sérieux de parler dans ces termes. Nous parlons comme cela en France.
Alors, reparlementarisation, vous en parlez aussi, Benjamin Morel, dans votre livre, mais regardez ce qui se passe aujourd'hui au Parlement. Et là, quand même, le spectacle est affligeant. Le régime des partis, c'est la pagaille, disait De Gaulle. Ben oui, on est en plein dedans aujourd'hui. Alors vous parlez aussi dans votre livre d'une possible rebipolarisation qui opposerait les raisonnables aux populistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça peut se produire? Et qu'attendre du Parlement? L'élection présidentielle a montré ses défauts, mais le régime parlementaire en France n'a pas laissé de bons souvenirs à la 4e République, et s'il s'établit aujourd'hui, ça risque d'être sous les plus mauvais auspices, Benjamin Morel.
Alors, deux choses par rapport à votre question. D'abord, la 5e République, c'est un régime parlementaire. La définition du régime parlementaire, c'est quand le gouvernement est responsable devant le Parlement. Et donc, en l'occurrence, on est demeuré dans un régime parlementaire, et vous prenez les propos de Michel Debré devant le Conseil d'État en 58, il est très clair sur le sujet. Mais le régime parlementaire, ça fonctionne pas comme ça fonctionne là. Il y a aucun pays européen, et vous avez que des régimes parlementaires à part Chypre, je crois, eh bien, vous avez aucun régime européen dans lequel on met un budget dans la machine parlementaire et on voit ce qui se passe. Non. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne, en Italie, au Portugal? Bref, je peux vous citer à peu près tous les pays européens. Vous commencez par former une coalition. Le président de la République arrive et dit « Très bien, quel est le parti arrivant en tête ? Eh bien, je ne vous nomme pas, mais je vous demande de trouver des alliés et de m'amener une majorité. » Une fois que la majorité est trouvée, si ce n'est pas le premier, on passe au deuxième parti, etc. On se met d'accord sur un programme. Et dans le programme, il y a quelque chose de fondamental, c'est le budget. On peut se diviser sur telle ou telle chose, mais on sait que toute la coalition votera le budget. Et ensuite, on se répartit les postes. Il n'y a jamais personne qui dit « Attention, je suis président de la République et... Tadam, voilà mon Premier ministre, et ensuite débrouille-toi pour trouver une majorité, et puis lance un budget au Parlement, ils l'amenderont, et puis à la fin ils le voteront peut-être. Ça ne marche pas,
oui,
ça
attendez,
ne peut pas fonctionner.
Mais c'est une procédure, d'accord, on change de procédure. Qu'est-ce que ça changerait aujourd'hui en France?
Alors,
est-ce que cette majorité peut émerger?
Alors,
est-ce que des partis politiques, on oublie l'élection présidentielle, peuvent vraiment trouver des compromis, étant donné l'ampleur des divisions? Les macronistes et la gauche dite de gouvernement, c'est pas possible. Ne parlons pas de la France insoumise. La droite ne s'alliera pas avec les macronistes s'ils font trop de concessions aux socialistes, même dans la procédure que vous imaginez. Quant au RN, le cordon sanitaire fonctionne toujours. On dit, à droite également, pas d'alliance avec l'extrême droite. Donc la France, même si elle procédait comme vous le souhaitez, ne sortirait pas de l'ornière, Benjamin Morel.
Alors, ça rejoint la deuxième partie de votre question, qui était celle sur bipolarisation et tripolarisation. La tripolarisation, aujourd'hui, elle est quand même bien inscrite dans l'électorat. Et donc, à partir de là, il y a une réflexion à avoir à mode de scrutin constant et à évolution du mode de scrutin. Si on prend le mode de scrutin majoritaire à deux tours, il ne produit pas nécessairement de majorité. C'est le mode de scrutin de la Troisième République, il n'a jamais produit de majorité. Aujourd'hui, le mode de scrutin majoritaire à deux tours avec la tripolarisation, structurellement, produit des blocs assez étanches. On a toutefois une évolution de l'électorat, on a un RN puissant et qui mord sur la droite parlementaire. On peut se retrouver avec des majorités, mais auquel cas, elles seraient probablement nécessairement, au moins pendant un temps, RN, droite. C'est en fait le scénario début de la Ve République, où vous avez un pôle structurant qui est capable d'obtenir une majorité avec une gauche divisée jusqu'au programme commun qui n'est pas capable de reprendre le pouvoir. Donc dans ce cadre-là, on peut avoir une restabilisation mais par l'extrême droite, ce qui peut être bien, pas bien, je laisserai chacun juge, mais qui peut être une réalité électorale. Le mode de scrutin proportionnel permet de faire baisser le coût des alliances possibles, d'où le fait que vous avez des modèles parlementaires européens qui sont tous à la proportionnelle, à part la France et la Grande-Bretagne.
Vous êtes pour la proportionnelle, alors?
Oui, mais attention, on discute en sciences politiques du nombre de formes de proportionnelles. Il y en a entre 50 et 80. Vous voyez, ça marche bien en Allemagne, ou en Israël, ou aux Pays-Bas.
Ça ne marche pas du tout en Israël.
Exactement. Vous avez des seuils de qualification très bas, ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc il y a des bons modèles ou des moins bons modèles. Et du point de vue de l'instabilité, je rappellerai qu'Angela Merkel a connu 5 présidents de la République. Donc on peut avoir des modèles stables. Mais en revanche, et pour terminer sur votre point sur la bipolarisation, la tripolarisation, le mode de scrutin est un outil facilitateur. Mais ce n'est pas un outil qui règle le problème fondamental. C'est-à-dire que, regardez en Allemagne, vous faites des grandes coalitions. Ça va du SPD à la CDU-CSU. Résultat, vous enrichissez les extrêmes, entre guillemets. En Italie, les extrêmes ont été intégrés dans le schéma politique. Tant que vous avez une forte polarisation, vous êtes en crise politique, quelle que soit votre configuration institutionnelle. Pour boucler sur la 4e République, ce qui sort la France de la crise, c'est pas tant la construction de la 5e République. En tant qu'ancien ministre, j'aimerais vous le dire, mais la construction de la 5e République, elle va vraiment être opératoire qu'en 1959. Ce qui sort la France de la crise, c'est les élections de 1958. Souvenez-vous de ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a 25% de communistes et les poujadistes. Les poujadistes disparaissent en 58. Les communistes s'effondrent. Et je regouverne sur un espace politique majoritaire. Et ça, tant que vous avez une forte bipolarisation, soit vous gouvernez au centre et vous faites ce que vous pouvez, soit vous intégrez les ailes, les extrêmes et vous gouvernez plus largement, soit vous les faites disparaître, mais il n'y a pas vraiment de sortie institutionnelle à ce problème politique.
Mais oui, mais justement, une forte majorité, on ne la voit pas se dégager aujourd'hui, sauf évidemment en pensant que le Rassemblement national, qui est favori dans les sondages pour l'élection présidentielle, arrive au pouvoir et que se constitue effectivement une union des droites. Dominique Régnier.
Je crois qu'il faut vraiment que nous prenions la mesure de notre présent. Nous sommes dans une situation réellement dramatique au plan de notre situation historique. Nous, la France. Les périodes antérieures avec lesquelles nous comparons le fonctionnement de ce même régime n'ont de ce point de vue-là pas grand-chose à voir et parfois rien à voir du tout. Gouverner, c'est faire quoi ? Si on peut, comme le pouvait le général de Gaulle et comme l'ont fait les autres, ils ne le pouvaient plus, ils l'ont fait quand même avec de l'emprunt, faire du gouvernement par de la dépense sociale, c'est pas la même chose que lorsque vous allez gouverner en annonçant à peu près le contraire, quel que soit votre parti politique, quel que soit votre souhait, votre désir d'être aimé. Et donc, on va devoir imaginer le fonctionnement de notre pays tellement attaché à l'État et à la dépense sociale, dans un futur là, maintenant, qui commence, qui sera de plus en plus marqué, où on va nous apprendre à nous passer de ce que nous voulons avoir ou de ce que nous voulons garder. Quel est le régime? Quelles sont les institutions? Quel est le mode de scrutin qui fait que vous êtes majoritaire? Il n'y en a aucun. Au début, vous ne le dites pas, vous dissimulez, donc vous êtes élu. Puis on voit que ce n'est pas ce que vous faites, parce qu'une fois que vous êtes élu, vous faites ce que la réalité vous impose. On est en colère contre vous, on demande même votre démission, par exemple. Mais le suivant sera mis au même régime. C'est-à-dire, ce n'est pas le régime de la 5e, c'est le régime du pain sec et à l'eau.
Oui, alors vous dites justement, Dominique Régnier, dans ce même entretien, que la hausse des prélèvements obligatoires est très spectaculaire. Ils sont passés de 30% du produit intérieur brut en 1960 à 46% aujourd'hui. Quant aux dépenses publiques, elles atteignent 57% du produit intérieur brut pour une moyenne européenne de 49%.
Oui, c'est-à-dire 250 milliards d'écart hein, entre la France et la moyenne européenne. Faut quand même voir cette immensité-là. Moi, je voudrais quand même qu'on arrive à comprendre collectivement qu'un agencement institutionnel qui nous permet de rétablir progressivement la situation budgétaire, ça repose sur quoi? Ça fonctionne comment? Je crois qu'on ne sait pas.
On ne sait pas. Mais alors, justement, j'en reviens à la suspension de la réforme des retraites. Bruno Retailleau, dans un entretien aussi au Figaro, dit que cette suspension revient à nier la réalité démographique. Il y avait 4 cotisants pour un retraité jadis, il n'y en a désormais plus que 1,6. Cette réforme est indispensable. Elle est pour les jeunes générations afin de leur garantir une retraite décente. Elle est aussi pour notre pays, car sans cette réforme, la France ne pourra pas fournir une quantité de travail suffisante pour renouer avec la prospérité. On compare avec l'Europe. Cette réforme a eu lieu partout en Europe. 67 ans au Danemark, régime social-démocrate, et on est dans un horizon de 70 ans. En France, ce n'est pas possible, donc il y a un vrai blocage, et c'est pas l'institution, en effet, une réforme institutionnelle, qui nous permettra d'en sortir. Mais d'où vient cette singularité française, Benjamin Morel?
Je rejoins en grande partie Dominique Régnier là-dessus, c'est-à-dire que, alors il y a l'élection présidentielle qui vous pousse à dire un peu on rase gratis, et puis, en fait, dans un régime parlementaire où vous avez des accords politiques entre plusieurs partis, la responsabilité est partagée. Là où, en fait, comment fonctionne la cinquième? C'est-à-dire qu'on disait tout à l'heure, le président de la République a du pouvoir parce qu'il a une majorité. Si je suis député, mon avenir, c'est quoi? Soit j'arrive à me trouver un bon cheval pour la prochaine élection présidentielle, et effet de ricochet d'une élection sur l'autre, j'ai une chance d'être réélu. Donc, je parie sur une forme de qui tout double. Si jamais je fais une réforme des retraites, demain, quick. Si mon candidat n'est pas réélu, moi non plus, et donc ma vie politique est finie, puis avec la fin du cumul de mandats, etc., vous avez une carrière politique très accidentée. En revanche, dans un régime parlementaire plus classique, hein, encore une fois, on a un régime parlementaire, mais à l'allemande, à la danoise, etc., vous avez des accords de partis, et ces accords entre partis politiques relativement stables, ces coalitions, permettent de partager la responsabilité, et demain, si jamais vous avez des nouvelles élections, ça ne veut pas dire que vous allez tomber, disparaître. Et donc à partir de là, le coût du compromis est moindre, et le coût des réformes difficiles est également politiquement beaucoup moindre.
Mais quand même, je repose la question, pourquoi est-ce si difficile en France de faire un certain nombre de réformes qui sont l'objet d'un quasi-consensus dans les autres démocraties européenne. Dominique Régnier.
Je laisse de côté donc l'argumentation institutionnelle que j'ai déjà évoquée. Et c'est très bien de citer le cas du Danemark, parce que ça introduit un autre élément et qui nous ramène à un moment de l'échange précédent où on parlait de la responsabilité des Français et la responsabilité aussi de leurs élus. Regardez, qu'est-ce qui empêche le Parti socialiste français d'adopter une démarche en matière de régulation des flux migratoires qui est celle de leurs amis danois, Parti social-démocrate danois. Rien, sinon de l'idéologie. Mais le résultat, c'est que vous n'êtes même pas capable de donner raison à ce que demande la nation, au moins sur un aspect.
Au moins là-dessus, oui.
Si on ne peut pas on pourrait très bien dire, on va vous demander de travailler plus. En contrepartie, on va tenir compte de votre demande en matière d'immigration et d'intégration, et là on sera efficace et ce sera manifeste, c'est une transaction avec les Français. On ne le fait pas, le Parti Socialiste ne veut absolument pas le faire. Et donc c'est aussi un problème qui vient de la culture de nos candidats, de nos élus, de nos partis, cette idéologie qui les a envahis. Ils ont quand même voté tout à l'heure, vous rappeliez effectivement cette différence entre 1960, 30% de prélèvements obligatoires et aujourd'hui 46%. On vient de voter, on verra jusqu'où ça va, 40 milliards d'impôts de plus. Cette assemblée, encore plus. Donc, nous sommes là et là, de ce point de vue-là, aujourd'hui, à ce jour, je conteste l'idée que le Parti Socialiste est un parti de gouvernement.
Oui, justement, c'est la question qu'on peut poser.
Et notamment sur le plan fiscal.
Oui, sur le plan fiscal. Et je rappelle aussi que lorsque François Bayrou, Premier ministre éphémère, a parlé d'un sentiment de submersion migratoire, Boris Vallaud et le Parti Socialiste ont déposé une motion de censure pour le mot « sentiment de submersion migratoire », alors même, en effet, que la social-démocratie danoise a pris le problème à bras-le-corps, ce qui tendrait à dire qu'il n'y a pas en France aujourd'hui une gauche de gouvernement et une gauche radicale, mais une gauche radicale et une gauche morale, très bien incarnée au demeurant par Raphaël Glucksmann. Mais peut-on parler de gauche de gouvernement ? Et est-ce que justement, ça ne contribue pas à la paralysie actuelle de la vie politique française ? Benjamin Morel.
Je crois que c'est un problème de structure. Et là, on revient aux questions électorales, en fait. Si vous êtes socialiste aujourd'hui, projetons-nous dans la tête d'un député socialiste. Vous savez deux choses. Vous savez que la gauche a fait plus de voix en 2017 qu'elle en a fait en 2022. Mais qu'elle a eu trois fois moins de députés. Pourquoi ? Bah parce qu'en 2022, il y a l'Union. Et donc, si vous n'avez pas d'union, demain, vous êtes potentiellement mort. Vous savez également que, lors des dernières élections, en 2024, en cas de second tour PS contre RN, je dis bien PS, hein, pas NFP, il y a un électeur macroniste sur deux qui a choisi le PS. Donc, vous savez demain que si vous avez une vraie rupture de l'Union de la gauche, une vraie rupture avec la France insoumise, eh bien, vous disparaissez. Alors, vous allez dire, oui, mais il y a l'intérêt général, etc. Mais si vous êtes socialiste, a priori, si vous êtes cohérent, si vous faites de la politique pour quelque chose, vous pensez que demain, l'intérêt général, ce serait d'appliquer votre programme. Sinon, vous iriez militer ailleurs, vous iriez pas militer du tout, parce que faire de la politique aujourd'hui, c'est compliqué. Et donc, est-ce que vous avez envie de tuer votre parti pour faire passer le budget François Bayrou et de donner demain les clés du camion de la gauche à Jean-Luc Mélenchon? Bah, c'est pas tout à fait évident, vous voyez, c'est pas uniquement des dilemmes qui sont des dilemmes idéologiques, c'est des vrais dilemmes éthiques sur, en fait, qu'est-ce que demain pourra être la politique ? Et là, on rejoint à nouveau à la fois la question des modes de scrutin, parce que le mode de scrutin fait qu'il est très coûteux de passer d'un système d'alliance à un autre, parce que vous avez été élu sur une configuration d'alliance donnée. Et on revient à la question que posait Dominique Régnier sur l'élection présidentielle, parce qu'aujourd'hui, dans toutes les têtes des politiques, il y a l'idée que malgré tout, eh bien, tout sera tranché à la prochaine présidentielle, et que d'ici là, ben, le principal, c'est pas tant d'être cohérent, le principal, c'est de survivre.
Mais Dominique Régnier, justement, comment se fait-il qu'il n'y ait pas en France une gauche de gouvernement susceptible, dans une nouvelle configuration, de s'allier avec le centre face à la droite, à l'extrême droite, enfin au Rassemblement national et à la France insoumise? Alors, Dominique Régnier.
C'est une histoire qui, au fond, c'est l'histoire de quelque chose qui a été esquissé et qui a été interrompu. Tout l'effort de la gauche socialiste française, en particulier depuis 1945, plus nettement encore, avec François Mitterrand quand même, qui a fait cela aussi, c'est de faire une gauche de gouvernement. Tout de même, le tournant de la rigueur, ça a valu beaucoup de difficultés au PS, mais c'est le rendez-vous avec la réalité. Même chose pour Lionel Jospin. Beaucoup de choses ont été faites. Il en manquait sur certains aspects, notamment la sécurité, l'immigration, éternel problème, jamais traité. Et on parle de sentiment de submersion migratoire. Il faut faire l'expérience de la submersion électorale du RN pour arrêter de parler comme ça, vous voyez. Mais on le construit, on y va peu à peu. C'est ça qui est fascinant. On a une gauche qui maintenant a définitivement rompu, enfin définitivement, manifestement a rompu avec les efforts de leurs prédécesseurs pour faire du Parti Socialiste, parce qu'il s'agit de cela, un parti européen capable de mener des politiques publiques raisonnables. Il ne s'agit pas d'autre chose. Et qui correspondent par ailleurs à des problèmes objectifs qui préoccupent la majorité de leurs concitoyens. Si vous ne faites pas cela, c'est même étrange de vous présenter à l'élection présidentielle. Je ne sais pas à quelle fin vous le faites. Est-ce que c'est pour exister ? Parce qu'en effet, un parti en France ne peut pas exister, y compris financièrement, s'il n'est pas candidat à la présidentielle. Mais là, tout de même, la gauche doit reconstruire, mais c'est un peu bizarre de le dire, parce que ça fait longtemps que ça se dit, sans beaucoup de progrès depuis, la gauche doit reconstruire un discours qui est celui de ses amis européens. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui réussissent en Europe, hein, parce qu'ils ont mis beaucoup de temps à se recaler. C'est le Parti travailliste britannique en est un bon exemple, et du coup, ils le payent sur le plan électoral.
Oui, mais alors, justement, je lisais dans Le Monde un article intitulé « Le think tank qui fabrique la peur de l'immigration ». Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et le think tank, en l'occurrence, c'était l'Observatoire de l'immigration et de la démographie que dirige Nicolas Pourmont-Monty.
Excellent, hein, je suis désolé, excellent observatoire.
Avec bien sûr.
Un homme très sérieux, des données qui sont celles de l'INSEE. Et je n'ai pas compris cette charge du monde. Sinon, pour une fois de plus, recouvrir le travail de cet observatoire, qui est documenté par l'INSEE, pardonné pour la source, de le recouvrir d'une espèce de soupçon mêlé à la figure de Sterrin, qui est mêlé à des idées du monde, hein, sur une fachosphère ou je ne sais pas quoi. Mais... c'est disqualifiant, c'est vraiment immoral de faire ça.
Hein. Oui, mais ce qui est très intéressant, c'est justement, c'est-à-dire, on a l'impression que cette gauche... qui refuse même que l'on puisse parler d'un sentiment de submersion migratoire, fait la courte échelle au Rassemblement national. Le Rassemblement national ne peut pas espérer mieux. C'est-à-dire que si toute une réalité est frappée de déni, ben, par les certains nombre de formations politiques, eh ben, les Français qui la vivent se tournent vers la seule formation qui la regarde en face. Donc j'ai l'impression qu'il y a un jeu vraiment extrêmement pervers aujourd'hui, et que ce jeu va conduire presque nécessairement Jordan Bardella à gagner l'élection présidentielle en 2027. Donc je me dis que voilà, on va peut-être pas sortir de la Ve République, mais on va sortir de la bipolarisation traditionnelle, et la gauche aura eu une certaine responsabilité dans cette situation à venir. Benjamin Morel.
Oui, mais je dirais qu'on en est déjà sorti, hein, de cette bipolarisation, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et si vous êtes une gauche social-démocrate, vous vous retrouvez face à un dilemme terrible. Soit, parce que, en fait, vous pesez quoi, électoralement? Vous pesez 10%. Et 10%, ça vous permet pas d'arriver au pouvoir. Et donc, soit vous faites alliance avec le reste de la gauche, y compris la FI, y compris une gauche très radicale, avec des bons reports de voix, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Soit vous retentez le coup Macron 2017, mais avec des électeurs de centre-droit qui vous aiment peu, qui aujourd'hui sont de plus en plus tentés par un vote RN ou au moins une abstention bienveillante vis-à-vis du RN, et avec un espace politique qui se restreint. Parce que l'électorat centriste, il a deux caractéristiques. Il est âgé, et donc il est en voie de renouvellement. Hein. On dit beaucoup les retraités votent RN, c'est pas vrai. Les nouveaux retraités votent RN. Et par définition...
Les jeunes retraités, c'est ça que vous dites?
Oui, les jeunes retraités, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, ils votaient déjà RN, sauf qu'ils n'étaient pas retraités. Et donc on a une transformation de l'électorat retraité. Et ensuite, des classes moyennes supérieures, mais qui sont en voie de déclassement social, et qui donc se disent que finalement, elles pourraient voter RN. Donc l'espace central est en train de se restreindre.
C'est une idée, oui.
Et donc si vous êtes un parti social-démocrate, est-ce que vraiment, sachant qu'il y a déjà beaucoup de concurrence, Édouard Philippe, les LR, etc., c'est pas la même ligne idéologique, mais c'est à peu près la même base électorale, eh bien, est-ce que vraiment vous avez un espoir là? Pas évident. Deuxième point par rapport à ce que vous évoquez, on dit beaucoup, et là Dominique Strani sera peut-être pas d'accord, parce que je sais qu'on a déjà débattu du sujet, on dit beaucoup la France est à droite. C'est pas si évident. Sur le sujet d'immigration et de sécurité, oui, les enquêtes montrent qu'on a une France, entre guillemets, je sais pas si de droite ou de gauche, mais en tout cas, de plus en plus sur une ligne dure. Mais sur les sujets économiques et sociaux, non. L'AFI avait fait faire une enquête par l'Institut Harris un an avant les dernières présidentielles et en faisant sonder les principaux points économiques, juste économiques, de son programme. Et donc, ils étaient arrivés en plateau de télévision en expliquant à tout le monde que 70 à 80% des Français étaient d'accord avec le programme de Jean-Luc Mélenchon, mais n'avaient fait tester que les propositions économiques. La force du RN aujourd'hui, c'est de parler de social et de sécurité, de parler retraite et immigration. Et ça... quand vous êtes un parti social-démocrate, c'est compliqué, parce que par définition, votre logiciel sur l'immigration ne sera jamais aussi dur que celui du RN, et que vous allez devoir être acceptable par au moins une partie du reste de la gauche, et que le logiciel économique, entre guillemets, raisonnable, il a le principal défaut de ne pas être très populaire.
L'électorat en moyenne est à droite en France depuis 1965 à la présidentielle, c'est entre 58 et 60% du premier tour de droite. Ensuite, on ne peut pas tirer la conséquence du fait qu'on soutient par exemple une option économique de gauche, par exemple la retraite à 60 ans, vous amène vers le RN. Hein, y a de la gauche dans la droite RN, évidemment, etc.
N'empêche que le RN, le Rassemblement National, est favorable à un retour de la retraite à 60 ans.
C'est pour ça que je le dis. C'est-à-dire que vous pouvez mesurer un soutien à la retraite à 60 ans, idée de gauche, on va dire, mais c'est un parti de droite là qui l'apporte encore aujourd'hui. C'est pas le seul, mais il l'apporte. Moi, je voudrais ajouter ce point à l'infini. J'ai la conviction que les Français ne veulent pas d'un pouvoir RN.
Ah bon ?
Et qu'une partie de la colère qui aujourd'hui les fait trembler, c'est qu'ils reprochent à leur classe politique de n'être pas capable de trouver une solution qui évite l'humiliation d'avoir à choisir finalement un président RN après avoir refusé trois fois au second tour de le faire, 2002, 2017, 2022, de se trouver contraint. C'est une humiliation pour les Français, ça sera une humiliation pour le pays, ça n'apportera aucune solution, les gens le savent. Quand on les interroge, ils n'ont aucune attente pour le RN. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas une espérance. On aura un moment historique si le RN arrive à l'Élysée, mais ce ne sera pas 81. Les gens ne vont pas s'embrasser dans la rue.
Ce sont les antifas qui occuperont la rue. Voyez, les gens ne vont pas s'embrasser, mais les rues vont s'embraser.
Exactement. C'est un point clé, ça. Il y a une peur de cela par tout le monde, en réalité, y compris par les électeurs du RN. 70% des électeurs de Marine Le Pen veulent conserver l'euro. Et 30% lui font confiance pour préserver l'euro. Ça n'a aucun sens, tout ça. Ils disent leur colère parce qu'ils n'ont que ce moyen pour la dire. Et la classe politique est coupable de ne pas leur donner des moyens honorables de traiter les problèmes qu'ils rencontrent dans l'existence. Ils finiront par faire ce qu'ils ne veulent pas faire.
Oui, mais je ne suis pas tout à fait sûr de vous suivre parce que c'est la position des Républicains aujourd'hui, ce que vous défendez. Très clairement.
Non, c'est une position qui vaut pour tous les partis.
Non, mais ce que je veux dire.
Ça vaut pour le PS comme pour.
Non, mais au contraire, les Républicains sont lucides. Ils ne nous bercent pas de mensonges, de fausses promesses, etc. Mais Bruno Retailleau est à 8% dans les sondages.
Je ne parle pas de ça. Je vous dis, la classe politique doit, à gauche comme à droite, doit s'occuper de trouver une solution honorable pour des Français qui, sinon, voteront pour le RN.
Oui, mais je vous dis ça. On a l'impression que la droite propose ses solutions honorables et Jordan Bardella est à 35%, c'est-à-dire le double d'Édouard Philippe et le candidat des Républicains est à 8%.
C'est bien pour ça que c'est une affaire collective. Si vous avez, et il y aura toujours à cause de la présidentielle, mais si vous avez des candidats qui à côté de vous racontent qu'on peut revenir à 60 ans pour la retraite, que ce monsieur vous ment, que de l'argent il y en a, on sait le trouver, comme disait Jean-Luc Mélenchon en 2012 sur la plage du Prado à Marseille, méfiez-vous messieurs les financiers, méfiez-vous messieurs les banquiers, je connais vos adresses. Je viens de citer in extenso. Hein. Et donc, comme il y a cette idée-là, cette idée folle qui est installée dans le pays, parce que la plupart des acteurs politiques, au fond, la cautionnent, y compris à droite d'ailleurs, y compris à droite. La droite n'est pas ennemie de l'impôt, sinon nous n'en serions pas là. Et donc, il y a une responsabilité de ces partis face au destin de ce pays.
Bon, ben espérons qu'ils vont la saisir. En tout cas, merci beaucoup Dominique Régnier, merci beaucoup Benjamin Morel. Benjamin Morel, je rappelle le titre de votre dernier livre, Le Nouveau Régime ou l'impossible parlementarisme. Il est publié aux éditions Passé Composé. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Roxane Nata, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Adrien Gaza. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre À qui la faute? Mes invités seront Chantal Delsol et Paul Gagné. Dans un instant, Concordance des temps avec Jean-Noël Jeannonet.